Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on se demande si la pilule, légalisée en France il y a un demi-siècle, est dangereuse ou non pour la santé des femmes. Considérée par certains comme un perturbateur endocrinien, la pilule entraîne des effets secondaires dits bénins, qu'il s'agisse de nausées, d'acné, de migraines, de perte du désir sexuel ou encore de déprime. En revanche, que sait-on vraiment des effets secondaires beaucoup plus graves? On sait depuis 2012 que les pilules de 3e et 4e génération aggravent chez certaines femmes les risques de thrombose veineuse et artérielle. Mais qu'en est-il des risques de cancer? Faut-il minimiser les risques induits par la pilule au regard de la balance bénéfice-risque, comme l'affirment les opposants au livre enquête de notre invitée Sabrina Debusca? Et vous, considérez-vous que la pilule peut être dangereuse pour votre santé? L'avez-vous arrêtée suite à des effets secondaires bénins ou graves? Vers quel contraceptif vous tournez-vous pour éviter la contraception orale? 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Aline.
Directrice de Santé Magazine, vous reviendrez tout à l'heure sur les méthodes dites naturelles de contraception.
Oui, c'est celles qui permettent d'observer son cycle pour évidemment éviter les périodes fertiles.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Aline.
Tous les lundis vers 9h30, on retrouve votre petite philo de la vie quotidienne. Bande annonce de votre chronique.
Eh bien, après la contraception, il peut y avoir la maternité. Petit retour ce matin sur l'instinct maternel.
À tout à l'heure.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Pour tenter de répondre à la question, la pilule est-elle dangereuse ou non pour la santé des femmes? Un premier témoin, bonjour Flore.
Bonjour.
Alors vous avez 36 ans, vous êtes assistante juridique et vous prenez la pilule depuis l'âge de 16 ans. On vous avait prescrit à l'époque Diane 35, recommandée par votre médecin de famille pour également traiter l'acné, c'est ça?
Oui, dans un premier temps pour traiter l'acné, et puis on s'en est servi pour les autres, pour le moyen contraceptif.
Alors, que s'est-il passé? Vous fumiez à l'époque, la prise de la pilule?
Oui, tout à fait. Donc elle m'a été prescrite donc effectivement à l'âge de 16-17 ans. Je l'ai pris pendant un moment avec une interruption donc pendant ma grossesse, puisque donc j'ai eu une petite fille à l'âge de 19 ans. J'ai été remise sous pilule Diane très naturellement. Et donc en juillet 2008, en fait, j'ai été prise de violentes douleurs à la poitrine, qui me gênaient pour respirer, donc qui étaient vraiment intolérables. Donc j'ai contacté dans un premier temps SOS Médecin, qui m'a diagnostiqué que c'était dû au stress, que je devais être, comme j'étais quelqu'un de nerveux, que ça devait être dû au stress. Donc j'ai eu un traitement d'anxiolytique, et donc on m'a conseillé de me reposer. Voyant que les douleurs ne cessaient pas, j'ai fini aux urgences. Les urgences ont fait le même constat, donc que ça devait être dû au stress et qu'il fallait que je prenne un petit peu de recul et donc que je me calme un petit peu. Et le lendemain, donc je retourne chez moi. Donc le problème, c'est que les douleurs sont revenues. Donc je retourne une nouvelle fois aux urgences. Là, on pousse les examens puisqu'on voit effectivement que les douleurs thoraciques ne passent pas. Et donc on en arrive à un diagnostic, donc je fais une embolie pulmonaire, je finis donc en soins intensifs pendant 3 jours, puis en cardiologie, et donc on m'explique que c'est dû à mon traitement, à ma contraception, donc notamment à la pilule,
augmentée
bien évidemment avec le tabac.
Qui vous dit ça? Qui vous dit que la pilule...
Le chef de cardiologie.
D'accord.
Et le chef de cardiologie me dit que je me suis en fait empoisonnée avec ce médicament et donc qu'il y a des contre-indications. Et donc moi je suis surprise puisqu'en fait on m'avait indiqué effectivement, c'était de notoriété publique, que la pilule et la cigarette ne faisaient pas bon ménage. Mais de là à penser que j'allais finir en soins intensifs et en cardiologie, c'était une autre histoire.
Est-ce que vous aviez été informée de la dangerosité du cocktail pilule-tabac?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que là, on m'en informait, on me demandait toujours ma consommation de cigarettes, mais elle était renouvelée de façon très naturelle. En fait, comme elle me convenait et que je n'avais pas d'autres effets secondaires, et puis évidemment, il y avait les bénéfices par rapport à l'acné, on ne s'est pas posé plus de questions, j'ai jamais eu plus d'informations que ça. Et en fait, j'ai ma fille aujourd'hui, enfin, qui va avoir 17 ans à la fin de l'année. On commence à en parler justement de pilules. Et en fait, je vois qu'au niveau de ses copines, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas contre la pilule, mais en fait, c'est cette légèreté avec laquelle on peut aujourd'hui prescrire sans information des effets secondaires et notamment des risques. Alors évidemment, il y a des tas de femmes à qui ça n'arrivera pas et bien évidemment, c'est tant mieux pour elles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ces filles qui l'ont pris pendant quelques mois et qui malheureusement ont fait une embolie, mais qui n'ont pas eu la chance comme moi de se relever et qui ont fini par mourir de ce traitement. Donc, je voudrais c'est plus d'informations vis-à-vis des dangers de la pilule surtout, et plus de contrôle vis-à-vis de ces filles qui fument ou qui ont peut-être des antécédents familiaux.
Flore, vous passez un angioscan quelques mois après cette embolie pulmonaire. Que vous dit-on à l'hôpital ?
Alors on me dit que déjà que la pilule s'est terminée, qu'il ne faut plus jamais de ma vie que je reprenne ce moyen de contraception. On me conseille bien évidemment d'arrêter de fumer, hein. Bien évidemment faut pas négliger les effets du tabac également. Et puis on me dit que bon le caillot est passé, c'est donc avec le traitement par anticoagulant qui s'est résorbé et donc qu'il faut effectivement surtout changer ma méthode de contraception et puis être vigilant puisque bon les embolies on peut avoir des récidives. Jusqu'à là, tout va bien.
Restez avec nous, Flore, encore quelques instants. Bonjour Sabrina Debusca.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes
bonjour à tous.
Journaliste indépendante et vous publiez J'arrête la pilule. Premier commentaire sur ce témoignage.
Non, mais effectivement, je crois que c'est tout l'objet de mon livre et c'est peut-être en ça que ce livre remue beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, on est encore en 2017 en France, des femmes qui meurent pour la simple et bonne raison qu'elles sont femmes, parce qu'elles ont pris une contraception alors que ça pourrait être évité, dans le sens où il y a des moyens de le prévenir par des prises de sang pour celles qui ont, comme Marion Lara, la mutation du gène Véleden, ou
Marion Lara, rappelez qui c'est,
en 2013, une personne qui s'est retrouvée handicapée suite à la consommation de sa pilule et qui a été la
pilule
première.
Pilule de troisième et quatrième génération.
Voilà, et qui a porté plainte du coup contre les laboratoires Bayer, et donc ça a donné suite au scandale de 2013 des pilules. Le but en fait dans tout ça, c'est juste ultra féministe, c'est de se dire on va trouver, aujourd'hui on a des femmes qui arrêtent de plus en plus la pilule, comment on les accompagne et comment on les aide à trouver un moyen de contraception qui n'engage aucune souffrance et aucun risque, aussi minime soit-il, de cancer ou d'embolie ou d'AVC.
Alors une question revient dans votre ouvrage, la pilule est-elle dangereuse ou non pour la santé des femmes? Alors vous avez enquêté pendant un an, vous avez épluché la littérature scientifique et rencontré des chercheurs, on y reviendra tout à l'heure, mais certains médecins et chercheurs vous reprochent de n'avoir retenu que les études qui allaient dans le sens de votre enquête. Martin Winkler, qui devait préfacer votre ouvrage, écrit au mensuel Cosette qu'il a préféré se retirer du projet. Je cite Martin Winkler, « Sabrina Debusca choisit ce qu'elle retient comme vrai et ce qu'elle écarte comme faux, mais pas de manière identiquement rigoureuse pour tout ».
Alors, ce qui me fait rire par rapport à ça, c'est que est-ce que vous avez déjà vu un journaliste qui parle des choses qui vont bien ? Moi, j'ai traité le sujet de la pilule comme tout journaliste va traiter quand quelqu'un dénonce quelque chose qui va pas en politique, en économie ou auprès de l'industrie pharmaceutique. On est là pour parler des trains qui arrivent pas à l'heure. Donc, je suis désolée, mon enquête, elle est pas là pour dire que tout va bien. Ça me paraît une évidence que la pilule a été un progrès génial pour les femmes. Ça me paraissait tellement évident que si vous voulez, je l'ai pas mis parce que c'est pas le but d'une enquête journalistique. Point barre. Après, concernant ce que dit Martin par rapport à tout ça, moi j'ai bossé pendant un an avec des scientifiques indépendants qui sont spécialistes du sujet, comme Hélène Grant, qui a fait partie des premières femmes qui ont développé la pilule dans les années 60. Elle l'a prise à titre expérimental en 60, donc elle n'était pas contre la pilule. Et elle essaye de nous alerter des biais scientifiques qui sont majeurs dans de nombreuses études qu'on reprend ensuite à l'OMS et avec lesquelles on informe les femmes. C'est ce que je détaille dans le livre. Moi, ça me questionne.
Docteur Joël Spirou, bonjour.
Bonjour.
Vous préfacez cet ouvrage de Sabrina Debusca. Vous comprenez la levée de boucliers de certains médecins et de certaines associations féministes ?
Bien sûr. Bien sûr, je le comprends d'autant plus que je fais des formations pour les médecins sur l'impact des perturbateurs endocriniens. Et lorsque j'ose dire que la pilule est un perturbateur endocrinien, tout le monde, mes confrères et mes consoeurs, me tombent dessus en me disant « Tu n'as pas le droit de dire ça ». Bah si, il faut appeler un chat, c'est important. À l'époque où on parle du bisphénol A et on fait arrose sur le baudet sur le bisphénol A, eh bien l'éthinyl estradiol est bien plus perturbateur endocrinien et plus toxique entre guillemets que le bisphénol A. Donc, moi, mon rôle, c'est de dire en tant que médecin, voilà les risques. Après, chacun fait son choix, c'est-à-dire que quand on dit que la pilule est dangereuse, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, ça veut dire que chacun prend son... Fumer tue, mais il y a de nombreuses personnes qui continuent à fumer. Donc, voilà, moi, c'est un rôle purement scientifique, purement médical, et il y a rien de dogmatique là-dedans. Après, une fois que les femmes vont être réellement, formée et consciente de ce qui se passe, le libre choix est à chacun.
Bonjour docteur Odile Buisson.
Bonjour Ali.
Vous commencez à fulminer depuis tout à l'heure. Vous êtes gynécologue et obstétricienne. Vous êtes membre du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France. Votre syndicat défend la pilule et vous regrettez sa diabolisation. Vous estimez d'ailleurs que l'ouvrage de Sabrina Debusca désinforme. C'est fort.
Oui, désinforme parce que... Alors d'abord, je voudrais remercier Sabrina qui vient de dire que la pilule est un moyen de contraception formidable, parce que ça, j'avais besoin de l'entendre, parce que au vu de son livre, c'était pas évident. Et je trouve qu'il y a une grande désinformation, notamment sur cette histoire de cancer. Et ça, je ne comprends pas, parce que dans la littérature internationale scientifique, il est démontré, et récemment, il y a eu un article, une publication de juin 2017, qui montre que les contraceptifs œstroprogestatif, non seulement n'augmente pas le taux de cancer, mais il diminue en ce qui concerne l'ovaire, l'endomètre, le côlon. Ça ne bouge pas sur le cancer du sein, ça augmente un petit peu le cancer du col. Donc je ne comprends pas, mais le problème c'est qu'on a beau le dire, on ne sera pas cru.
Sur le cancer, on reviendra tout à l'heure hein, sur les liens entre la pilule et le cancer. Sabrina de Busca, levée de bouclier de certains médecins chercheurs, de certains médias, mais votre livre fait écho à des forums anti-pilule sur Internet. Comment expliquez-vous ce phénomène « j'arrête la pilule » en 2010, la moitié des femmes prenait la pilule, elle n'était plus que 41% en 2013. Je n'ose imaginer les chiffres aujourd'hui en 2017.
Moi, ce que j'analyse, et d'ailleurs je suis allée chercher cette parole des femmes que visiblement on n'écoute pas souvent, parce que pour la plupart des femmes, ce qu'elles reprochent à la pilule, moi j'ai fait un sondage auprès de près de 3600 d'entre elles, sont les effets secondaires bénins sur la libido, la prise de poids, les migraines, la dépression, donc les effets quotidiens. C'est ça en fait, moi mon livre, ce qu'il montre, c'est qu'il apporte un ensemble, un faisceau de preuves qui vont dans le sens, étrangement, de la parole féminine. C'est-à-dire que le point de départ de mon enquête, ça a été... Ce décalage qui me semblait immense entre la parole de nombreuses femmes sur la pilule, l'expérience qu'elles en ont, et les notices ou ce que nous disent de nombreux médecins qui ont plutôt tendance à aller dans le sens d'une minimisation ou du fait de dire que les effets secondaires, c'est 1 à 10%. Bon, mais moi, ça a été le point de départ de mon enquête. Il se trouve que cette parole des femmes qu'on n'entend jamais par rapport à ça, moi, j'ai fait un sondage. Certes, c'est pas un sondage IFOP, il vaut ce qu'il vaut.
Sur votre blog.
Voilà. Je l'ai mis en ligne sur Internet dans le cadre de la préparation du livre. Il y a eu 3600 femmes qui ont répondu. Il y en a 70% d'entre elles qui disent oui, moi j'ai des effets indésirables sous pilule. Le premier, 46% de ces femmes, la libido. On n'en parle jamais. Toutes les femmes entre elles en parlent et on n'en en parle jamais. Donc c'est intéressant.
Docteur Odile Buisson.
Alors la libido, d'accord, mais moi je trouve qu'il y a une étude, enfin j'ai vu qu'il y avait une étude de 2013 sur l'European Journal Contraception Reproduction Healthcare qui a réétudié 36 études qui ont été réévaluées, soit 13 673 femmes. 85% d'entre elles ont une augmentation du désir, 15% une diminution. Il n'y a pas de différence entre les œstroprogestatives à 20 et 35 microgrammes d'éthinyl estradiol. Et la libido est uniquement diminuée quand les estradiols sont très bas. Donc il y a des variations interpersonnel, parce que les récepteurs sont pas les mêmes d'une femme à l'autre, mais dire que la pilule tue la libido, non.
On y reviendra tout à l'heure. La pilule est-elle dangereuse pour la santé des femmes? C'est notre thème ce matin. Question, témoignage au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Une émission préparée par Alexia Rivière, Claire Destacan, et par notre journaliste Théo Denmat, avec l'aide d'Antoine Vandeville, et c'est réalisé par Eric Lenné.
C'est 400.
Jane Birkin, Didouda.
L'homme est faible, l'homme est laid.
Grand bien vous fasse.
Tout ce qui est femelle n'est que douceur et tendresse.
Sur France Inter.
Roland Mel, le journal d'interactualité.
Affaire française, il nous faut revenir sur la fin de la session parlementaire d'hier soir. En effet, hier soir, à une écrasante majorité, les députés ont adopté la loi sur la régulation des naissances et les contraceptifs, connue également sous le nom de loi Neuwirth ou de loi Pilule. Dès ce matin, Raymond Tortora a demandé aux premières femmes qu'il a rencontrées ce qu'elles pensaient de cette loi.
Je suis contente. La nature, c'est la nature.
Bah, moi, je m'en réjouis personnellement.
Pourquoi, madame ?
Parce que je pense que c'est une condition essentielle de la libération de la femme actuellement.
Je suis contre.
Pourquoi, madame ?
Bah, parce que je trouve que la nature fait souvent bien les choses et que il faut la laisser faire.
Moi, je suis pour. J'ai l'impression que c'est une grande date pour la femme française.
Interactualité, le 28 décembre 1967, pour ou contre la pilule en 1967, et toujours les mêmes questions en 2017. Flore, vous êtes restée avec nous,
oui.
Vous avez témoigné tout à l'heure, vous avez pris la pilule à l'âge de 16 ans, Diane 35, vous avez eu une embolie pulmonaire à l'âge de 27 ans. Petite réaction à ce que l'on vient de se dire, notamment au débat entre Sabrina de Busquin, qui publie J'arrête la pilule, et le docteur Odile Buisson.
Eh bien, moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'en fait, je ne suis pas contre... je pense pas qu'il faut être contre la pilule, mais ce qu'il faudrait, c'est proposer plus d'alternatives aux femmes. Il y a d'autres méthodes, suivant aussi, par exemple, sa situation de couple, est-ce qu'on veut avoir des enfants, est-ce qu'on veut plus en avoir. Il y a plein de méthodes qui existent qui ne sont pas assez proposées aux femmes. Et en fait, moi, c'est cette banalisation, en fait, de tout de suite prendre la pilule. C'est ce que je remarque, par exemple, chez les copines de ma fille. On parle de ça, en fait, avec une légère... Et moi, c'est ça, en fait, qui m'alerte. C'est surtout le manque de contrôle et cette légèreté à la prescription comme si on prenait des pastilles pour la gorge. Or, ce n'est pas ça, c'est vraiment un traitement lourd et on peut peut-être aussi apprendre aux femmes à connaître son corps d'une façon différente et à proposer justement d'autres méthodes.
Alors,
et en fait,
de...
je voudrais vraiment que les gynécos et les médecins traitants, d'ailleurs, voilà, proposent d'autres alternatives aux femmes que la pilule, forcément, qui va être prescrite d'une façon... simple et automatique.
Flore, beaucoup de courriels qui vont dans votre sens, notamment Zoé qui nous dit « J'ai testé deux pilules contraceptives, l'une m'a donné du cholestérol et l'autre m'a fait prendre du poids et donné de l'acné, rien de trop grave, mais que sait-on vraiment aujourd'hui des effets secondaires à long terme ? Aucun gynécologue n'a abordé avec moi les effets secondaires ni évoqué d'autres formes de contraception possibles. » Docteur Odile Buisson, je rappelle que vous êtes gynécologue et obstétricienne.
Non, je voulais vous dire, maintenant, ce qu'on a tendance à proposer en première intention chez très jeune fille, c'est des stérilets, et les stérilets au cuivre. L'ennui, c'est que ça fait saigner et ça fait mal. Donc, aller au boulot ou aller faire une copie de maths quand on a des crampes, eh ben, c'est une perte de chance vis-à-vis des garçons. Et souvent, le silence du corps, c'est quelque chose de très important pour pouvoir réfléchir, vivre, aimer et s'épanouir dans la vie. Donc, souvent, ces jeunes filles sont amenées à arrêter parce qu'elles ne le supportent pas.
Sabrina de Busquin.
Oui, non, je pense qu'en fait, ce qui est en train de se jouer autour de mon livre et ce qui fait autant débat, c'est qu'en fait, on a deux générations de femmes différentes. Moi, c'est ce que j'explique à la fin de mon livre. Je suis, voilà, clairement, je suis féministe et je pense exactement comme ce que vient de dire Flore. C'est qu'aujourd'hui, on a eu deux vagues contraceptives. La première avec le retrait de l'abstinence qui a permis de réduire drastiquement les naissances. Ensuite, on a eu dans les années 60 le DU, la pilule, qui ont permis d'avoir une précision et une efficacité dans le calendrier, mais qui sont juste exceptionnelles et géniales. Et aujourd'hui, on a un début de troisième vague contraceptif qui est pas du tout rétrograde, mais qui veut, au regard de ce qu'on sait de l'impact des hormones sur l'environnement et sur le corps des femmes, de dire on veut la même efficacité, mais vous savez quoi, sans aucun risque pour la santé, sans roulette russe du cancer, sans effet secondaire, et on va y arriver, c'est hyper progressiste.
Docteur Joël Spirou, je rappelle que vous préfacez l'ouvrage de Sabrina de Busca.
Oui, je pense qu'il faut revenir peut-être pour les auditrices et les auditeurs aux fondamentaux. La pilule est donc un perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que c'est que les voies endocriniennes? C'est, dans notre cerveau, on est l'hypothalamus qui dirige l'hypophyse et qui, elle, va diriger la sécrétion de toutes les hormones du corps, c'est-à-dire les hormones sexuelles, mais aussi les hormones thyroïdiennes, mais aussi le pancréas, les surrénales, etc., etc. Et alors, on a une vision très réductionniste de la science et du vivant, parce qu'on pense qu'en changeant un axe endocrine comme celui de la reproduction, et ça va être complètement indifférent à tous les axes, mais pas du tout. Dans la nature, tout est lié. C'est-à-dire que toutes ces sécrétions hormonales, elles sont entremêlées. Et quand on modifie un axe, on modifie tous les autres. La preuve en est, les effets qui sont dits effets indésirables, mineurs, mais qui sont pas si mineurs que ça, puisque diminution de la libido, risque de thrombose. Moi, j'ai le Vidal sous les yeux, donc risque de thrombose vasculaire, de thrombose artérielle, de tumeur du col de l'utérus, de cancer du sein, etc., etc. C'est pas neutre. Et ça explique ce que je viens de dire, c'est que il y a des risques. Après, il faut les connaître.
Merci Flore de nous avoir appelé. Docteur Buisson.
Il y a des risques, mais il y a d'énormes effets bénéfiques. Nous avons, nous les Françaises, 85 années d'espérance de vie, soit 3 ans de plus que les Anglaises, 2 ans plus que les Hollandaises, et nous sommes seulement 10% de femmes à être hystérectomisées. Alors que chez les Anglais, c'est 30%, chez les Américains, 40%, et les Australiens, 50%.
Donc, rappelez ce qu'est l'hystérectomie.
Ablation de l'utérus. Pourquoi ça? Parce que le modèle français contraceptif a permis de conserver l'utérus.
Alors, ça, je suis on n'a pas la preuve.
Vous ne pouvez pas dire ça, madame.
C'est tout à fait prouvé.
C'est une corrélation, mais ce n'est pas scientifique.
C'est tout à fait prouvé.
Par rapport à tout ça, alors moi, ce que je dis dans mon livre, et tout un chacun peut aussi, au bout d'un moment, lire les 300 pages, aller faire l'enquête que j'ai fait, j'ai mis des références, enfin voilà, je l'ai fait avec des spécialistes indépendants, toxicologues ou chacun spécialiste de leur sujet. Le problème avec l'effet protecteur du cancer annoncé sur certains organes comme l'ovaire ou l'endomètre. Pour revenir sur le cancer sein, foie, voie biliaire, col de l'utérus, classé par le CIRC, pilule œstroprogestative, comme cancérigène de catégorie 1 sur ses organes. Avant que le CIRC, qui est quand même financé, c'est une branche de l'OMS...
Le CIRC, c'est le Centre International de Recherche sur le Cancer en 2005. Le CIRC, qui est une branche de l'Organisation Mondiale de la Santé, pour le CIRC, la pilule œstroprogestative est reconnue comme un produit cancérigène de première catégorie, au même titre que l'amiante, le plutonium ou les rayons X.
Alors ça, c'est suite à des ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'ils ont analysé l'ensemble de la littérature, sauf que le CIRC est une branche de l'OMS. L'OMS est aujourd'hui financée à 75% par l'industrie, ils ont fait comme avec le glyphosate. Je peux vous dire qu'avant qu'ils reconnaissent quelque chose de cancérigène, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et pour les effets protecteurs sur l'ovaire ou l'endomètre, vous avez des gens comme Hélène Grant qui sont spécialistes du sujet depuis plus d'une vingtaine d'années et qui ont analysé les études et qui nous montrent que le problème, c'est que l'effet protecteur annoncé de la pilule sur l'ovaire ou l'endomètre est faussé par des biais majeurs dans les études qui sont qu'on compare des femmes qui ont pris la pilule avec des femmes qui ont pris des hormones de pilule lors de FIV ou de traitement de la ménopause. Donc les études ont des biais majeurs qui ne permettent pas d'en conclure ce qu'on en conclut aujourd'hui.
Concernant l'étude du CIRC, du Centre International de Recherche sur le Cancer en 2005, le docteur Nasrin Khaleh, gynécologue et oncologue à l'Institut Curie, nous dit que cette étude est critiquable. Je la cite dans l'hebdomadaire Le 1. Pour qu'une étude sur le sujet soit réellement satisfaisante, elle doit prendre en compte le cas de femmes habitant différents pays, ne présentant aucun antécédent particulier, d'un âge similaire, et ayant consommé des pilules au dosage identique sur un nombre d'années semblables. Or, une telle étude n'existe pas. Docteur Buisson.
Non, c'est vrai, mais de toutes les façons, quand on dit que la pilule protège l'ovaire, ça paraît assez évident puisqu'elle bloque l'ovulation et elle n'abîme pas l'ovaire. De la même façon qu'elle atrophie l'endomètre, ce qui limite l'hyperplasie endométriale et l'hyperplasie endométriale, quand l'endomètre s'épaissit, on sait très bien que ça fait le lit du cancer. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Vous dites les pilules, ça donne le cancer. Mais
non, je dis pas les pilules. La pilule, l'œstroprogestatif, tout est précisé dans le livre.
Mais vous savez que les épidémiologistes nous disent que la première cause de tous les cancers, c'est l'alcool. Alors, est-ce que vous allez arracher les vignobles? Deuxième cause de cancer, c'est le tabac.
Non, mais moi, je suis contre rien ni personne. Je suis journaliste, j'informe les gens de faits. Excusez-moi.
Vous désinformez aussi beaucoup parce que.
Mais je désinforme, mais tout un chacun peut aller voir les études.
S'il vous plaît. Un peu de tenue.
Non,
docteur Spirou.
Je crois qu'il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable et la base de tout ça. Qu'est-ce que c'est que le fondement de ça? C'est que les études toxicologiques permettant la mise sur le marché des médicaments ou des produits chimiques sur la planète ne sont pas aptes à nous protéger. Et si ça l'avait été depuis 70 ans, ça se saurait parce qu'on n'aurait pas toutes les maladies chroniques qui se développent. Et en particulier, les malformations néonatales et toutes les problématiques. Écoutez, madame, attendez.
Les spécialistes de l'éthylène estradiol nous disent que ce qu'on observe aujourd'hui en infertilité masculine et déformation.
Le dernier point. Ce qui est fondamental, c'est savoir que les études toxicologiques pour la mise sur le marché, elles sont faites par les producteurs et en plus elles sont considérées comme secret industriel, donc on ne peut pas y accéder et les analyser.
Docteur Buisson.
Alors ça, je ne sais pas ce que c'est que ces études pipo, mais moi je fais du diagnostic anténatal, je peux vous dire que le taux de malformation fœtale c'est 3% et qu'il est stable.
Non.
Les malformations congénitales chez les petits garçons sont en augmentation constante depuis les années 60.
Mais non.
Depuis
et qu'on a introduit quand vous voyez les pathologies chroniques qui augmentent, c'est simplement que la population augmente et que nous vieillissons. L'évolution n'avait pas pensé qu'on pourrait aller jusqu'à 85 ans. On était censé mourir au 19e siècle à 40-50 ans. Et on est plusieurs maintenant, on a une surpopulation, la population augmente. Donc forcément, la prévalence des cancers augmente. À 60 ans, il ne faut pas faire l'étonner si on attrape un cancer.
Alors, Sabrina de Busca, sur les liens entre la pilule, certaines pilules et certains cancers, vous citez deux études majeures qui font encore aujourd'hui référence et qui affirment que la pilule n'est pas dangereuse et n'est pas cancérogène et qu'elle protégerait même de certains cancers. D'abord, l'étude menée en 1968 par le Collège Royal des médecins généralistes de Londres.
Depuis 1968, puisqu'elle est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on analyse sur le long terme les cancers et les maladies chez ces femmes-là. Et en fait, ces études, quand on va extrêmement dans les détails, c'est-à-dire qu'on les prend qu'on prend les cohortes, qu'on analyse femme par femme, on se rend compte que la plupart des études réalisées sur la pilule, ce que je vous disais tout à l'heure, ont un biais majeur qui est immense. Les épidémiologues le savent très bien. C'est que, par exemple, si on veut comparer l'effet cancérigène d'un médicament, prenons le Mediator, on va prendre des patients qui l'ont pris et des patients qui ne l'ont pas pris. Or, dans le cas de la pilule, on a des patientes qui ont pris la pilule, mais dans le groupe des patientes qui n'ont pas pris soi-disant la pilule, on a mis des femmes qui ont pris la pilule mais il y a longtemps, ou qui l'ont arrêtée il y a longtemps, des femmes qui ont eu des traitements de la ménopause, c'est-à-dire exactement les mêmes hormones que la pilule, ou des femmes qui ont fait des FIV, c'est-à-dire exactement les mêmes hormones que la pilule. Et ça va jusqu'à 50% du groupe des femmes qui n'ont pas pris de pilule. Donc aujourd'hui, on a un problème au niveau de la science, c'est que de moins en moins de femmes ne prennent pas d'hormones dans leur vie, peut-être moins de 10% des femmes. Donc du coup, on a énormément de mal à évaluer correctement le risque cancérigène parce que tout simplement, on ne peut pas comparer avec une femme qui n'a jamais pris d'hormones.
Et vous remettez en question une deuxième étude qui a suivi près de 20 000 femmes entre 1968 et 1978.
À Walnut Creek, oui. Alors ça, c'est encore une fois, ce livre-là, il est signé Sabrina de Busca, mais moi, je suis journaliste, je ne suis pas spécialiste. Je suis allée voir des spécialistes du sujet, indépendance en conflit d'intérêts. C'était un peu le but du livre. Et on voit que ça brosse un portrait différent. Donc, ce n'est pas mon avis. Ce sont des chercheurs spécialistes du sujet. Je cite toutes les références qui montrent les biais dans ces études qui ne permettent pas d'en conclure ce qu'on en conclut. Si on enlève, par exemple, les femmes qui ont eu des traitements de ménopause de cette étude, eh ben, il n'y a plus d'effet protecteur. Alors, c'est étonnant, mais moi, ça m'intéresse en tant que journaliste, c'est tout.
Docteur Joël Spirou.
Le gros problème, c'est que les études épidémiologistes, les épidémiologiques ne sont pas aptes à mettre en évidence les produits. Pourquoi? Parce que l'épidémiologie, ça a été mis sur pied après Pasteur pour l'évaluation d'une épidémie, un agent causal et un effet direct et incontournable avec une pathologie donnée. Or, quand on fait une étude épidémiologique sur des milliers de femmes, ces femmes-là sont aussi ont en elles aussi d'autres perturbateurs endocriniens. Et donc c'est un petit peu comme si vous preniez, c'est des faux témoins en quelque sorte. Si vous preniez Nils Astrom pour comme témoin dans une affaire de dopage, quoi. Ça peut pas le faire.
Docteur Odile Buisson.
Non, Sabrina met en cause les études internationales.
C'est pas
mais
ce sont des spécialistes du sujet.
Ben justement, les spécialistes du sujet indépendants, blablabla. Qu'est-ce qui les empêche de publier à leur tour, de critiquer
la
presse
livre,
scientifique? Mais votre livre, moi, je m'en fiche. C'est la presse scientifique qui m'intéresse.
Mais les études.
Pas mépris pour le livre de Sabrina Jeviska.
Non.
Mais je veux dire, ça m'intéresse pas forcément. Moi, je carbure pas au livre de Sabrina de Buisca. Vous pensez bien. Donc, sans mépris aucun, hein, sans mépris aucun. Mais vos chercheurs indépendants, pourquoi ne publient-ils
pas? Ils ont publié, je mets les références dans le livre. Ils ont publié, allez voir les références.
Ils sont inconnus.
Jane Galbraith, 1998, qui parle de la.
Écoutez, j'ai fait un livre aux études récentes.
Docteur Odile Buisson, les références sont dans les notes de bas de page de Sabrina de Busca. Juste, dans l'enfer féminin, le docteur Philippe Vignal affirme que ce seraient les cycles menstruels qui seraient à l'origine de l'apparition de certains cancers chez la femme, chaque cycle favorisant la division cellulaire et donc offrirait une opportunité aux cellules cancéreuses de se développer. Je le cite, les femmes ne sont pas faites pour avoir 450 cycles par vie. Docteur Buisson.
Alors ça, j'en sais rien du tout.
D'accord.
Qui publie, je lirai, puis on appréciera.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Non, je trouve que ce débat est intéressant parce qu'il montre peut-être que des femmes qui aujourd'hui ont 50 ans étaient prêtes à prendre un sur-risque en prenant la pilule. Et aujourd'hui, des jeunes femmes, elles veulent plus de ce sur-risque, même quand elles le connaissent. Des femmes voulaient bien prendre ce sur-risque de cancer de sein, avoir des effets secondaires. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui ne veut plus de ces effets secondaires. Voilà, c'est tout ce débat que ça, c'est très intéressant.
Ça fait ça.
Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous Elisabeth?
J'appelle de Bretagne, à côté de Rennes.
Alors vous avez commencé à prendre la pilule à l'âge de 17 ans.
Oui, en sachant qu'aujourd'hui j'ai 52 ans, donc je suis dans la tranche des femmes qui pourraient être concernées par les cancers. Et en fait, à 17 ans, j'ai commencé à prendre la pilule pendant 6 mois. Et quand j'ai vu les effets sur mon corps, j'ai décidé d'arrêter. Ma mère étant infirmière, elle m'a parlé de la méthode qui à l'époque s'appelait la méthode Ogino, donc qui consiste à prendre sa température pour savoir à quel moment on a son ovulation. Donc cette méthode, je l'ai appliquée pendant des dizaines d'années et ça m'a amené, moi déjà, à prendre conscience de mon propre cycle et de savoir qu'en fait, on n'est pas fécondable tout le temps et qu'en fait, la période de fécondité est très courte. Alors c'est vrai que j'avais un cycle régulier. Peut-être aussi parce que, voilà, c'était comme ça. Et du coup, ça m'a aussi amené à avoir des relations avec mes partenaires et mes compagnons qui ont fait qu'ils ont été sensibilisés au rythme de la femme. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, soit on mettait un préservatif, soit on faisait pas l'amour. Ou alors, quand ils se contrôlaient, on pouvait faire en se retirant.
Docteur Odile Buisson, sur le témoignage d'Elisabeth.
Alors oui, d'accord. En fait, c'est une méthode naturelle, mais à quoi ça sert la contraception? Ça sert à faire l'amour sans risquer de grossesse. Faire l'amour, ça implique une gestuelle, une liberté, ça implique de vouloir faire l'amour quand on en a envie, et au moment où on en a envie, et de ne pas s'obliger au moment où on n'a pas envie, pour répondre au partenaire. Donc il me semble que les contraceptions naturelles pêchent par ce biais-là.
Aline Perraudin.
Moi, j'avais beaucoup d'amis à l'école qui étaient ce qu'on appelait des bébés Ogino. Donc, c'est quand même pas une méthode très efficace si on l'applique pas correctement. Ça demande une bonne connaissance de son corps et aussi un dialogue avec son partenaire.
Sabrina de Busca.
Non, aujourd'hui, justement, quand on parle de liberté du corps, etc., aujourd'hui, par exemple, il y a des jeunes femmes comme moi, moi, mon parcours, il est assez typique. J'ai 29 ans, j'ai pris la pilule 10 ans, ensuite j'ai eu le DU cuivre 2 ans. Ça n'a pas fonctionné puisque j'ai eu beaucoup de douleurs, j'ai pas effectivement d'enfants, donc voilà, ça arrive à beaucoup de femmes. Moi, ce que ma génération, entre guillemets, la génération j'arrête la pilule, demande, c'est si on veut plus d'hormones et si on veut plus de DU, on revient à l'âge de pierre contraceptif. Or, moi, j'y suis revenue à cet âge de pierre et je me suis dit, super, ça fait 8 ans que je suis avec mon conjoint, on va devoir faire l'amour 30 jours par mois avec le préservatif. Et grâce à une méthode naturelle qui s'appelle asymptothermie, que je suis allée chercher par moi-même, puisque ma gynécologue ne la connaissant pas, elle n'a pas pu me former dessus, eh bien aujourd'hui, je fais l'amour uniquement 10 jours par mois avec le préservatif. Je suis hyper satisfaite, j'ai plus de migraines, j'ai plus de baisse de libido et je me sens très bien, je ne pollue pas l'environnement. Est-ce qu'on peut en parler deux minutes et poser les choses sur la table?
Tout à l'heure. Voilà.
Docteur Odile Buisson.
Oui, c'est très bien tout ça, ça vous convient. À vous, mais ça convient pas à tout le monde, parce que personnellement, dès le matin, se mettre un thermomètre dans la bouche et mettre un index dans le vagin pour voir quel est l'aspect de la glande. Il y a autre chose plus intéressant dans la vie. Le silence du corps, c'est pas mal aussi.
Non, mais le silence du corps, est-ce qu'aujourd'hui on peut être féministe en ayant un corps comme les hommes ont un corps et en n'allant pas contre ce corps-là? C'est possible ou vous voulez pas l'entendre? Qui verse dans l'idéologie au bout d'un moment?
Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir témoigné ce matin. Il est déjà temps de retrouver notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Léonard, Gaspard, Édouard. Bon, je sais pas comment tu t'appelles. Tu restes là, s'il te plaît. Ok, l'enfant? Tu restes au pied, hein? Sinon, je t'attache. Quoi, t'as faim?
Oui.
Ah non, mais j'ai pas de goûter. Bah, mange du sable, t'adores ça. Attends, mets ça, là. Si, c'est dégoûtant. Tu vas attraper des maladies, c'est des nids à virus, ça. Ah, c'est dégueulasse, ces enfants. C'est pire que des pigeons, hein.
Thibaut de Saint-Maurice, vous profitez de ce débat animé sur la pilule ce matin pour vous demander si l'instinct maternel existe vraiment.
Oui, et puis pour mettre un petit peu de sourire aussi voilà, dans l'émission. Alors je vous rassure tout de suite, hein, ce qui me tient lieu à moi d'instinct paternel arrive tout de même à rire donc de cette caméra cachée de la connasse Camille Cotin dont on vient juste d'entendre un extrait. Et le rire ici, il vient justement de la transgression apparemment réelle d'une norme sociale tellement forte, à savoir prendre soin de ses enfants, que pour certains, elle puise sa force dans la nature. Et nous voilà donc, au cœur de la question, l'instinct maternel, le fameux instinct maternel, est-il une réalité naturelle ou une construction sociale? Alors vous me direz, Ali, la réponse est dans la question. Si l'on parle d'instinct, c'est bien qu'il s'agit d'une réalité naturelle, innée, universelle, dont personne donc ne pourrait prétendre se dispenser.
Sauf que cette idée, Thibaut, ne fait pas l'unanimité.
Oui, il ne faudrait pas se prendre les pieds dans les ambiguïtés de l'expression. Les culturalistes, comme l'ethnologue Margaret Mead, le sociologue Pierre Bourdieu ou la philosophe Elisabeth Badinter soutiennent au contraire que l'instinct maternel est une construction sociale et qui dépend donc d'une histoire en répondant à des besoins sociaux. Ce n'est pas parce que les mères sont le plus souvent attachées à leurs enfants que cet attachement est naturel. Mais soyons un peu précis, l'idée des culturalistes, ce n'est pas de nier l'attachement des mères à leurs enfants, c'est plutôt de libérer les femmes d'une obligation de maternité. En montrant que le désir d'enfant et l'attachement aux enfants ont varié dans l'histoire, et d'ailleurs varient aussi selon les cultures, il s'agit de montrer que les formes actuelles de cet attachement ne sont que relatives et ne peuvent en aucun cas se prévaloir d'une universalité naturelle.
L'enjeu est donc de penser le lien entre féminité et maternité.
Exactement. Déconstruire l'instinct maternel en tant qu'instinct, c'est dire qu'une femme est pleinement femme, même si elle n'est pas mère. Mais c'est dire aussi que l'attachement aux enfants n'est pas réservé qu'aux mères, et ça me plaît bien, parce que j'ai commencé en vous parlant de mon instinct paternel, et je pense que tous les pères me comprendront. Déconstruire l'instinct maternel, c'est une manière aussi de faire de la place pour reconnaître l'attachement paternel. Et on peut même aller plus loin. Abandonner l'idée d'instinct maternel, est-ce que ça serait pas le meilleur moyen de laisser à chacun des parents la possibilité d'exprimer toute sa différence dans l'attachement à ses enfants?
Donc chaque parent devient libre alors d'inventer un lien singulier avec chacun de ses enfants.
Oui, et c'est au fond ça qui est essentiel. À chaque fois que la nature est convoquée dans un débat pour jouer le rôle de la norme, de l'obligation ou de l'assignation, on réduit les possibilités d'expression et d'épanouissement de notre humanité. La maternité ou la paternité sont bien plus belles et elles ont bien plus de sens et de valeur quand elles ne sont pas la réponse à un instinct, mais quand elles relèvent de la responsabilité de chacun et du désir de l'autre. Et ça peut sembler paradoxal, mais en ce sens, prendre la pilule ou mettre un préservatif, parce qu'il faut aussi parler de la contraception masculine, c'est déjà prendre le chemin de cette responsabilité-là. Parce que c'est affirmer que la conception d'un enfant n'est pas une obligation mais un choix, et c'est se souvenir que seule la liberté est créatrice.
La petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, c'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse. On attend vos questions sur la pilule 01 45 24 7000. Grand Bien vous fasse à radiofrance.com.
The rolling of thunder, wolves calling each other as the roses they cover in the black of the night. Passions extinguish in short whispered sentences, bandaged from memory is the thought of yesterday. Now I look past my shoulder for the face of my mother. Did I see her smiling, or was it all a dream? No, I seem to recall the perfume of roses, the day they all hiding, the dewdrops are frozen. Half full, half blind, half awake, girl. Half full, half blind, half awake, world. Half full, half blind, half.
got some roses. The wolf is sending messages. Sweet perfume of love just under our noses. I won't hold my horses. Just leave what's above. Sweet labor of love just surrender to the other.
Half full, half blind, half awake girl.
Interprété Blossom Roses.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
La pilule est-elle dangereuse pour la santé des femmes? Débat animé hors antenne entre nos invités. Bonjour François, bienvenue dans Grand bien vous fasse. Nous écoutons bonjour. Votre témoignage, François.
Alors voilà, donc ma femme a eu des problèmes avec la pilule. Elle prenait la pilule depuis l'âge de 15 ans. Nous avons fait un premier enfant, elle a arrêté, il n'y a pas eu de problème. Et quand on a décidé de faire notre deuxième enfant, elle a fait, avant de l'avoir, elle a fait deux fausses couches. Le gynécologue nous a sous-entendu que ça pouvait être lié à la pilule. Donc après ce deuxième enfant, elle a repris la pilule. Et là, elle a eu des kystes aux ovaires, donc elle est obligée d'être opérée, donc à l'anesthésie générale. Donc là, arrêt définitif de la pilule. Un stérilé, mais avec des effets secondaires. Et donc, on a tout arrêté et on a décidé que ce serait moi qui prendrait la chose en compte et j'ai fait une vasectomie.
Merci pour votre témoignage. François, dans votre ouvrage Sabrina de Busca, J'arrête la pilule, vous établissez un lien entre le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose et la prise de pilule.
Non, en fait, juste ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, par exemple pour l'endométriose, c'est le professeur Charles Chaperon qui nous en parle très bien, qui est à Cochin. En fait, le problème, c'est que la seule solution aujourd'hui pour une femme de réduire ses douleurs d'endométriose, c'est de prendre la pilule. Or, malheureusement, ça laisse les symptômes de la maladie évoluer de manière silencieuse. Et après, on a des femmes qui, du coup, arrêtent la pilule et se retrouvent avec une endométriose encore plus sévère. Or, l'endométriose génère des problèmes d'infertilité, etc. C'est ça le problème au vu de l'endométriose.
Docteur
Alors,
Buisson.
L'endométriose, c'est une maladie mal connue. C'est quand l'endomètre se met en dehors de l'utérus. La seule façon de contenir la maladie, surtout chez les jeunes femmes, c'est de diminuer le flux menstruel. Donc la pilule est absolument numéro un dans l'arsenal thérapeutique que nous avons. Et moins elles auront d'endométriose pour quand elles seront aptes à faire elles décideront à faire des enfants, mieux ce sera. Donc c'est tout à fait préventif sur l'endométriose.
Oui, docteur Joël Spirou, vous avez préfacé l'ouvrage de Sabrina de Busca.
Oui, mais là la pilule est utilisée comme un médicament. Pour lutter contre une pathologie. Or, la pilule, quand elle est prise uniquement à voie contraceptive, on le donne à des femmes qui ne sont pas malades et qui n'ont pas de troubles de santé. Donc, c'est deux choses complètement différentes.
La physiologie des femmes, des fois, est compliquée. Et on peut très bien être cassé en deux et avoir mal au ventre et ne pas pouvoir aller travailler alors qu'on n'est pas malade. On peut très bien avoir des hémorragies très handicapantes et tout ce qui nous limite le corps limite notre liberté. Parce que moi, je suis dans la conception spinoziste.
Toutes les femmes qui souffrent à cause de leur pilule.
Je suis mon corps. Si tu réduis l'espace dans lequel je peux me mouvoir, si tu m'empêches de sortir de la maison, tu réduis ma liberté.
Madame Buisson et toutes
ces femmes. Et c'est la féministe qui parle, le rétroféministe.
Oui, une autre féministe qui vous parle en face, une autre féministe qui vous parle en face, c'est qu'aujourd'hui, justement, il y a plein de femmes et on est en train de se rendre compte qu'en fait, la pilule, dépression, baisse de libido, aurait beaucoup plus d'impact sur le bien-être des femmes au quotidien, les carences chroniques en vitamine C, etc. On en parle.
Mais il y a des millions de femmes qui vont très bien avec la pilule.
Merci beaucoup, François, de nous avoir appelé ce matin. Alors, question toute simple, docteur Odile Buisson, comment fonctionne la pilule et comment empêche-t-elle la grossesse?
Alors, la pilule ostroprogestative, elle a trois verrous. les progestatifs modifient la glaire qui fait que les spermatozoïdes ne peuvent pas être relargués dans l'utérus. Elle atrophie la muqueuse utérine, si bien qu'un embryon ne peut pas se nicher s'il venait, et surtout elle bloque l'ovulation. C'est le progestatif qui a un effet anti-gonadotrope et qui bloque l'ovulation. Les micro-progestatifs, eux, agissent sur la glaire et à moindre effet sur l'endomètre, sauf un seul qui est anti-gonadotrope, mais je vais peut-être pas faire de publicité pour ça ici. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire que la pilule trompe le corps en lui faisant croire qu'il y a une grossesse ?
Non. Je peux pas dire ça. Non. Est-ce qu'on peut dire que les antibiotiques trompent le corps en lui faisant croire qu'il y a pas de, il y a pas d'infection? C'est
Sabrina de Busca.
Ça, certes. Moi, en tout cas, enfin, encore une fois, les spécialistes à qui j'ai travaillé, hein, c'est pas mon opinion. Quand on observe les courbes hormonales d'une femme sous pilule et d'une femme en deuxième partie de son cycle sans hormones ou en tout début de grossesse, ça corrèle parfaitement. C'est-à-dire qu'on a les œstrogènes en bas, la progestérone au-dessus, et du coup, ça induit effectivement les effets secondaires qui ressemblent souvent sous pilule à ceux de la grossesse.
Ça n'a pas de sens de prendre qu'une ou deux hormones. Il faut voir le profil hormonal total. Dans une grossesse, il y a un placenta et il y a beaucoup de choses qui sont sécrétées.
Alors, pour bien comprendre le débat qui nous agite ce matin, il faut, à mon sens, faire un retour en arrière. La pilule, c'est une inconnue célèbre. Deux personnages, Sabrina de Busca, deux personnages clés dans l'histoire de la pilule. La féministe et eugéniste Margaret Sanger, qui a fondé la Ligue pour le contrôle des naissances, qui deviendra plus tard le planning familial américain. Et le docteur Gregory Pincus, le co-inventeur de la pilule contraceptive. Racontez-nous un peu cette histoire, remontons en 1957.
Donc, c'est même avant 1957. Margaret Sanger, dès les années 20, parle d'une pilule magique qu'elle adorait développer. C'était une super féministe, une suffragette, personne ne lui enlèvera ça. Mais elle était aussi de son époque, elle était eugéniste. Et en fait, quand on s'intéresse à l'histoire de la pilule en détail, comme je l'ai fait, et qu'on regroupe un peu toutes les pièces du puzzle, on se rend compte qu'on était dans un contexte de guerre froide, d'eugénisme. On avait peur de ces populations du tiers-monde qui étaient en train de croître et de faire la lie du communisme. Et du coup, si vous voulez, la pilule a été financée, les arguments féministes, tout le monde s'en fichait très clairement, et la pilule a été financée en majorité par des eugénistes qui voulaient la donner aux masses populaires pour ne pas qu'elle les dépasse, notamment dans le cadre des minorités ethniques et des tensions raciales qu'il y avait aux États-Unis.
Alors, dans votre ouvrage, vous revenez sur les failles méthodologiques et éthiques des essais menés à Porto Rico de 1957 à 1961.
Eh bien, effectivement, on a sur les premiers essais de la pilule, ça a fait lieu à certains, enfin, on en a parlé lors de certains procès, on a eu 5 décès suspects de femmes qui n'ont pas été autopsiées. Alors que parallèlement, en 1954, on avait testé la première pilule pour hommes, qui était Gregory Pincus voulait faire une castration chimique pour les homosexuels. Et comme un des participants a vu ses testicules ratatinés, on a tout de suite arrêté les essais. Donc 5 femmes décèdent, un testicule ratatiné. Quel produit est mis sur le marché? Je vous laisse deviner.
Alors, je vous livre une réflexion naïve. Hein. Si la pilule était si dangereuse que ça, ça saurait. Ce serait un scandale sanitaire qu'on aurait vite démasqué.
Mais en fait, le problème, encore une fois, c'est l'évaluation de l'impact des hormones est très difficile. Et aujourd'hui, le scandale, c'est à la fois aussi sur les effets bénins, c'est-à-dire la dépression. Quid de l'impact sur une femme de la dépression due à sa contraception, à sa vie sexuelle, etc. Si autant de femmes aujourd'hui arrêtent la pilule et n'y reviennent plus, c'est qu'il y a quelque chose. Faut pas être naïf, il y a aussi plein de choses en jeu, de l'argent, etc. Donc posons les faits sur la table et voyons tous ensemble si on peut progresser pour répondre à cette demande féminine qui est déjà là.
Docteur Odile Buisson.
Moi, je crois que si la pilule est un peu rejetée, c'est parce qu'il y a des vagues de désinformation, des désinformateurs, et je crois que la méthode naturelle va être plébiscitée parce qu'elle ne coûte pas cher à l'État.
Aline Perraudin sur la méthode naturelle.
Alors, il y a plusieurs méthodes naturelles. Il y a la prise de température, l'observation des sécrétions vaginales, l'observation du col de l'utérus. En fait, le principe des méthodes de contraception dites naturelles, c'est d'examiner son corps pour comprendre son cycle. Le but, éviter les rapports sexuels non protégés pendant la période de fécondité. Aujourd'hui, près d'une femme sur 10 opte pour ces techniques d'observation du cycle de l'ovulation ou pour le retrait. Donc c'est beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Elles ont des avantages, comme vous le dites, elles sont écologiques, elles ne coûtent rien. Pour le corps, elles sont écologiques aussi, et l'environnement. Et elles peuvent susciter un dialogue avec le couple. Elles ont aussi des inconvénients. Et là, il faut aussi en parler. Elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Elles nécessitent parfois une autodiscipline de faire. Et puis, elles sont contestées parce qu'elles ont une efficacité dite limitée. Alors attention, souvent les statistiques mélangent plusieurs méthodes. Ogino est beaucoup moins efficace, par exemple, que la méthode de symptothermie. En fait, Il faut vraiment, il n'y a pas de contraception idéale. Chaque couple doit choisir la contraception qui lui convient.
On termine avec vous, Fabienne. Bonjour, Fabienne.
Oui, bonjour à vous.
Alors, vous avez été victime d'un AVC en 2009.
Oui, donc moi, j'ai pris assez longtemps une pilule de deuxième génération, avant mes enfants, puis après mes enfants. Et je faisais des mycoses vaginales et ma gynécologue m'a proposé de basculer sur une pilule de troisième génération, voilà, que j'ai pris pendant 7 ans. Et en 2009, j'ai fait un AVC gravissime.
Et est-ce qu'un lien a été établi entre la prise
récupérée
Est-ce que évidemment, Fabienne, est-ce que des liens ont été établis entre cette prise de pilule de troisième et quatrième génération
Alors,
et votre AVC?
Ils n'ont pas été établis de manière formelle à 100%. Néanmoins, plusieurs gynécologues m'ont dit, à la suite de mon accident, qu'il y avait une forte probabilité pour que ce soit la pilule.
Un dernier mot du docteur Odile Buisson.
Alors, le dernier mot, c'est que j'aimerais bien, Ali, que vous fassiez une émission avec les pro-pilules et tous les avantages que la pilule peut nous avoir apportés.
Vous étiez là pour représenter les pro-pilules, Odile Buisson, tout de même.
Oui, mais vous avez fait comme des témoignages qui sont contre. Donc, on aimerait bien avoir des témoignages rééquilibrer la balance. Parce que, vous savez, la vie va être difficile pour traiter les femmes.
Odile Buisson, vous savez, nous avons reçu énormément de courriels d'auditrices qui ont arrêté la pilule et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ont appelé le standard pour nous
raconter.
Mais
c'est toujours les mécontents qui se font, vous le savez
que
bien.
Que les pro-pilules nous écrivent.
Promettez-moi, allez, s'il vous plaît, je vous en supplie, je me mets à genoux, promettez-moi de faire une émission pro-pilule.
Merci à tous d'être venus, on refera d'autres émissions sur la pilule. Merci beaucoup Sabrina Debusca, J'arrête la pilule est publiée aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci docteur Joël Spirou et merci docteur Odile Buisson.